Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embrasser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens. Esprit de feu, viens nous embraser.
Viens, Esprit Saint, éclairer l'intelligence de notre cœur et allume en nous le feu de ta charité. Amen. Un très grand merci aux jeunes de l'école d'évangélisation pour ce beau chemin de croix qu'ils nous ont permis de vivre. La force du chemin de croix, c'est vraiment de nous impliquer dans la passion de Jésus avec notre propre corps, de transcender les siècles pour se laisser rejoindre par cet événement unique, mais dont les effets continuent de se faire sentir. Et si nous célébrons la passion du Seigneur aujourd'hui, c'est bien parce que cette passion est à la source de notre vie chrétienne, de notre vie dans la foi, dans l'amour fraternel, dans l'espérance aussi, que le mal et la mort n'ont pas le dernier mot. Donc un très grand merci d'avoir servi cette méditation avec à la fois simplicité et profondeur. Nous allons prolonger ce chemin de croix de façon plus méditative, plus réflexive, mais c'est le même mystère dans lequel nous continuons d'entrer et d'avancer sous l'inspiration, l'impulsion de l'Esprit-Saint. Alors la météo de ce jour est variable. c'est intéressant parce qu'elle nous fait passer de l'averse, des averses à la lumière et à la chaleur même du soleil. Et finalement, c'est comme ça qu'il nous faut lire aussi les récits évangéliques de la Passion. Vous voyez, ils ont un côté glaçant, comme cette averse de fin mars, là, qui nous a un peu transi. Et puis en même temps, il y a une lumière et une chaleur qui passent à travers ces récits de la Passion. Et on verra dans l'Évangile selon saint Jean combien effectivement le côté douloureux est bien présent, mais qu'en même temps, il est porteur déjà d'une réalité glorieuse, lumineuse. Dans les mystères douloureux, affleurent déjà les mystères lumineux. Vous voyez, dans le même récit d'Évangile, et notamment chez saint Jean, il y a cette double face, finalement, douloureuse et lumineuse, qui est présente. Et c'est un peu ce que la météo nous a donné de vivre. On est passé de la pluie au soleil. Alors, nous allons poursuivre cette démarche de retraite pour passer de ce monde au Père, pour passer avec Jésus de la mort à la vie. Et nous sommes cet après-midi, en ce Vendredi Saint, vraiment au cœur de ce passage. C'est le moment où tout se noue, c'est le moment, on pourrait dire, ultime de la croix, où Jésus va jusqu'au bout de l'amour en donnant sa vie. On va d'abord prendre le fil de l'Écriture, et puis ensuite celui de l'enseignement de l'Église, et enfin nous retrouverons le fil de notre vie de disciple. Je vous rappelle aussi notre démarche en trois temps, détachement, disponibilité, décision. Il est temps d'entrer vraiment dans cette disponibilité intérieure en la demandant au Seigneur. On s'est détaché depuis hier soir de notre quotidien pour entrer dans ce triduum, pour entrer dans cette retraite et pour nous rendre donc disponibles. Voilà, donc dans le silence, dans le recueillement, dans la gravité de ce jour, eh bien, continuons d'être des disciples disponibles à ce que le Seigneur veut nous dire et veut faire en nous. Il veut parler à chacun. Et nous n'en sommes pas tous au même point de notre vie de foi. Et donc, le Seigneur va parler différemment, à différents moments, de différentes façons. Voilà, ça peut être par l'Écriture, ça peut être par un geste liturgique, par une station du chemin de croix, par un chant, par un petit événement, par un regard. Voilà, le Seigneur passe parle de bien des façons et de bien des manières. Donc soyons disponibles à ce qu'il veut nous dire. Voyez, soyons prêts à recueillir une parole, un geste que le Seigneur veut nous adresser personnellement pour nous permettre d'avancer dans cette conversion qu'il nous invite à vivre. Alors prenons d'abord le fil de l'Écriture à partir de l'Évangile selon saint Jean. Je vais prendre au chapitre 19 les versets 16 à 37. Jean 19, 16, 37. Vous savez que le dimanche des rameaux, et de la passion du Seigneur, on lit l'évangile synoptique de l'année liturgique. Donc on a lu la passion dans saint Marc dimanche dernier. Et le vendredi saint, chaque année, on lit la passion dans l'évangile selon saint Jean. Voilà. Tous les dimanches des rameaux, c'est l'un des trois synoptiques, Matthieu, Marc ou Luc. Et le vendredi saint, c'est saint Jean. Je vous partage un message que j'ai reçu lundi d'une femme que je visite de temps à autre à La Roche-sur-Yon. Elle n'a pas beaucoup de formation, mais elle a un grand cœur. Et elle me laissait ce message en me disant qu'elle était allée à la messe des rameaux avec une amie qu'elle avait invitée. Et elle trouvait ça scandaleux qu'on parle déjà de la mort de Jésus. C'est le dimanche des rameaux, pourquoi on parle de la mort de Jésus? C'est pas le vendredi saint. Il faut changer ça. Toi qui es bien placé, dis-leur qu'il faut changer ça. Je ne sais pas si je suis bien placé, mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'on ne va pas le changer, vous voyez, parce que la liturgie des rameaux, c'est vraiment cette entrée dans la semaine sainte où effectivement il y a la joie de l'accueil de Jésus Messie, hein, Hosanna au fils de David, Jésus qui rentre à Jérusalem, et en même temps il y a déjà en filigrane de cette entrée messianique, eh bien, la sortie de Jérusalem avec la croix sur les épaules. Et donc dès le dimanche des rameaux, l'Église contemple le mystère de la croix du Seigneur pendant tout le temps de la Passion et notamment toute la Semaine Sainte. Et là encore, on voit combien la croix et la gloire sont liées. Alors prenons saint Jean, chapitre 19, les versets 16 à 37. Ils se saisirent, alors début du verset 16, alors Pilate leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus, et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas « roi des Juifs », mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas. Désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes habits. » Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Voilà la mort de Jésus telle que saint Jean nous donne de la contempler. D'abord, quelques mots sur le lieu où Jésus va être crucifié. Saint Jean est précis, hein, vous aurez remarqué dans ses descriptions géographiques, il connaît bien les lieux. Il porte sa croix en sortant de la ville auprès du Golgotha. On nous dit que c'est pas loin de la ville, hein, c'est pour ça que beaucoup de gens vont voir la scène. Ce qui se comprend d'ailleurs, hein, un lieu d'exécution capitale, c'est généralement un lieu bien en vue parce que le pouvoir qui pratique la peine de mort veut que cela ait une vertu pédagogique. Vous voyez qu'en voyant un supplicié mis à mort, on se dise « je ne vais pas faire la même chose que ce qui l'a amené à être ainsi mis à mort ». Donc c'est tout à fait cohérent. Pour ceux qui sont allés à Jérusalem, vous êtes allés au Golgotha, au Calvaire. Aujourd'hui, c'est un peu difficile de se représenter les lieux tels qu'ils étaient au temps de Jésus parce que le rocher du Calvaire est enchâssé dans une église, hein, la basilique du Saint-Sépulcre, et à quelques mètres de là, quelques dizaines de mètres, il y a le tombeau, hein, où le corps de Jésus a été déposé. À l'époque de Jésus, on était à l'extérieur de la ville, mais tout près d'une porte de la ville. Et quelques décennies, les archéologues ont très bien retrouvé, quelques décennies à peine après la mort de Jésus, on a construit un nouveau mur qui a enclavé ce qui, à l'époque de Jésus, était à l'extérieur, dans la ville de Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est en pleine vieille ville de Jérusalem. Mais au temps de Jésus, on est à l'extérieur. Et on est donc sur un lieu qui avait servi autrefois, jusqu'au deuxième siècle avant Jésus, qui avait servi de carrière de pierre pour construire la ville de Jérusalem. Et donc, vous savez comment on exploite une carrière, hein, on coupe des grands blocs de pierre, et ce qui dessine peu à peu des espèces de grandes marches. Et dans les parois verticales de ces grandes marches qui restaient de l'exploitation de la carrière, on avait creusé des tombeaux, puisque la carrière n'était plus exploitée. Et on comprend du coup pourquoi il y avait un tombeau neuf pas loin, parce que c'était effectivement un lieu, un cimetière, un lieu d'ensevelissement des morts. Et dans cette carrière était resté un rocher qui n'avait pas été taillé en blocs de pierre, parce que la roche était soit de mauvais état, soit elle était déjà fendue en partie, et du coup on n'avait pas pu l'exploiter pour en faire un bloc de construction, mais par contre on pouvait utiliser la fente pour mettre les poteaux des gibets, des croix, voyez. Et en plus c'était un petit lieu en hauteur, un promontoire, près de la porte de la ville, donc le lieu idéal pour les crucifixions. Et donc on voit ça aujourd'hui, on voit encore le rocher fendu, et on peut mettre sa main sur le rocher du Calvaire. Et alors le Golgotha, le lieu dit du crâne, parce qu'effectivement le profil, la silhouette de ce rocher pouvait faire penser à un crâne humain. C'est une des explications étymologiques que saint Jean nous rapporte là. J'en reste là, mais c'est pour vous dire que le lieu est bien situé par saint Jean et qu'on le retrouve aujourd'hui, même s'il faut un peu d'imagination quand on est aujourd'hui à Jérusalem, pour se représenter les lieux du moment de la Passion. À quel moment Jésus va-t-il être crucifié? Pour saint Jean, c'est à la veille de la Pâque juive, et c'est avant que le sabbat ne commence, hein, puisque ensuite, saint Jean va nous dire, verset 31, « Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, le samedi, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. » Donc Pessah, hein, cette fête juive où on fait mémoire de la sortie d'Égypte et où on va partager en famille l'agneau pascal selon le rituel qu'on a entendu hier dans la messe de la Seine, Exode chapitre 12. Donc c'est le vendredi et le repas de la Pâque aura lieu le samedi. Et saint Jean nous dit, c'est le jour de la préparation. Qu'est-ce qu'on prépare? Qu'est-ce qu'on prépare au moment où Jésus est conduit vers la croix? Eh bien, on prépare les agneaux qui vont être rôtis au feu et qu'on va manger pour ce repas de fête le lendemain. On a une petite différence de calendrier entre saint Jean et les évangiles synoptiques. Pour les évangiles synoptiques, le repas de la Pâque c'est le jeudi soir. Et Saint Jean va nous dire, dans le calendrier juif de cette année, le repas pascal, il sera le samedi, puisque le vendredi, c'est le jour de la préparation. Alors, je vous passe le débat des spécialistes. Il y a différentes hypothèses pour répondre à ces questions. Mais ce qui est très intéressant et que je mets devant votre contemplation, c'est que pour Saint Jean, Jésus est mis à mort à l'extérieur de la ville, au moment même où, dans la ville, au temple, on sacrifie les agneaux de la Pâque. C'est concomitant. On est vers le soir, vous voyez, dans l'après-midi. Saint Jean va nous dire que c'est à la 9e heure que Jésus va rendre l'esprit, c'est-à-dire 15 heures. On est au printemps, au mois de Nisan, dans le calendrier juif. Et donc le soir tombe encore assez tôt. Et on va immoler les agneaux avant que la nuit ne tombe. Et on va vouloir retirer le corps de Jésus de la croix avant que la nuit ne tombe, avant que le sabbat ne commence. Il y a donc une simultanéité que Saint Jean implicitement souligne entre les agneaux qui sont immolés au temple et Jésus, l'agneau de Dieu, tel que Jean-Baptiste l'a désigné au début de son évangile, qui est mis à mort sur la croix en même temps. Jésus est l'agneau pascal véritable. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mais voyez que sa mort sur la croix correspond liturgiquement à la mort des agneaux dans le temple. Et Saint Jean met ça en valeur. C'est assez impressionnant de voir combien, dans la chronologie même des événements, eh bien, le sens de ce que vit Jésus nous est donné. Voilà, Jésus donne sa vie comme étant l'agneau dont le sang va nous faire passer la mort. Vous vous souvenez que le sang de l'agneau pascal, on en enduit les montants et le linteau des portes au moment de l'exode, de la sortie d'Égypte, pour que la mort ne touche pas les familles qui ont mis ce sang sur la porte. Et bien voilà que l'agneau dont le sang va nous sauver de la mort, c'est Jésus. Jésus est l'agneau de Dieu, comme nous le disons dans la liturgie de la messe. Il est celui qui enlève le péché du monde. Alors pourquoi peut-on dire ça avec force? Pourquoi peut-on affirmer que Jésus enlève le péché du monde? Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est un acte volontaire, un acte humain. Alors, entre parenthèses, qui nous déshumanise, c'est-à-dire qui abîme notre humanité, mais en tout cas qui engage notre volonté d'homme et de femme, et qui va blesser la relation à l'autre, la relation à moi-même. C'est un acte qui me blesse aussi, qui me fait du mal. Quand je fais le mal, ça me fait du mal. Et qui va donc aussi blesser ma relation à Dieu. Ça va blesser le cœur de notre Père. Voyez, quand un enfant se fait mal, les parents le ressentent dans leur chair de parents. Eh bien, quand nous nous blessons et quand nous blessons nos frères, ça blesse le cœur de notre Père. Donc un péché, vous voyez, c'est un acte volontaire qui divise, qui blesse les relations, qui blesse l'alliance, qui abîme. Donc l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, on pourrait traduire, c'est l'agneau qui enlève la division entre les hommes et Dieu, et la division entre les hommes, et nos divisions intérieures aussi, parce que nous sommes parfois divisés en nous-mêmes. Nous ne sommes pas encore pleinement unifiés. Et pourquoi Jésus peut enlever le péché du monde? Eh bien parce qu'en lui, il n'y aura aucune division dans son humanité déjà. Il est pleinement unifié. Et vous savez qu'il est à la fois homme et Dieu. Et donc en lui, l'homme et Dieu sont toujours restés unis. Et là où il y aurait pu avoir une division, une opposition, c'est-à-dire sur la croix et au moment de la mort, même là, il n'y a pas eu l'écart d'un papier à cigarette de division entre Jésus et son Père. Jésus est resté dans la volonté de son Père. Il a eu un combat pour intégrer cette volonté, non pas ma volonté mais la tienne, on l'a évoqué ce matin. Il a éprouvé le silence de Dieu et ce sentiment d'abandon, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais il a toujours continué à s'adresser à son Père. Il n'a jamais rompu la relation. Il n'a jamais tourné le dos. Il s'est toujours tourné vers lui pour s'adresser à lui, même si c'était pour lui poser cette question vertigineuse, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc voyez, Jésus est toujours resté tourné vers son Père et tourné vers nous, ses frères, en humanité. Le mal, la souffrance, la mort elle-même n'ont pas réussi à séparer Jésus de son Père, Jésus de ses frères. Il est resté toujours dans l'amour, dans la charité. Jésus n'est jamais sorti de la charité. Et c'est pour ça qu'il nous sauve du péché, qu'il enlève le péché du monde. C'est que la division du péché n'a eu aucune prise sur Jésus. Déjà au début de son ministère, le tentateur n'avait pas eu de prise sur lui. Et il l'avait laissé jusqu'au moment fixé. Et le tentateur, il est revenu dans la nuit de Gethsémani, vraisemblablement, pour essayer d'opposer Jésus à son Père, de distinguer sa volonté de celle de son Père. Il n'a pas réussi. Et sur la croix, ça se vérifie. Jésus reste jusqu'au bout dans la charité, dans la communion d'amour avec son Père et vis-à-vis de nous. Et donc, il nous sauve de la division du péché. Si je m'attache à Jésus, si je mets mon cœur dans le sien, comme Marguerite Marie a vécu ici cette expérience, d'avoir son cœur plongé dans le cœur de Jésus, eh bien, je reçois de Jésus cette unité intérieure qui est plus forte que la division du péché. Voyez ? Et je reçois de Jésus ce lien de communion, ce lien d'amour avec le Père et avec mes frères. Jésus me rend capable d'aimer, alors que le péché affaiblit mes capacités à aimer. Un péché, c'est une façon désordonnée d'aimer. En général, quand on pêche, on recherche l'amour, ou on veut aimer, mais par un mauvais chemin. Et du coup, ça affaiblit l'amour véritable, ça le blesse. À l'inverse, quand je m'approche de Jésus, quand je le prie, quand je reçois de lui la grâce par les sacrements, par sa parole, par son Église, par mes frères, eh bien, je sors de ce régime de division intérieure et de division des relations qu'entraîne le péché. Voilà, j'essaie de rendre compte, voyez, comment Jésus, agneau de Dieu, enlève le péché du monde et donc nous sauve du péché et des divisions qu'il entraîne. Ce qui va permettre à l'Église, dans ses premières années, de comprendre que Jésus est le grand prêtre par excellence. C'est dans la lettre aux Hébreux, c'est un texte que vous pouvez méditer en ce jour, Hébreux chapitre 4, verset 14, jusqu'au chapitre 5, verset 10. Selon la tradition juive, Jésus n'est pas prêtre. Jésus est un laïc. Comment est-on prêtre dans le peuple juif? On est prêtre par la naissance, comme on est juif d'ailleurs, par la naissance. Si je nais d'une mère juive, je suis juif, j'appartiens au peuple de l'Alliance, au peuple d'Israël. Si je ne nais pas d'une mère juive, je ne suis pas juif, j'appartiens à une autre nation. Je suis un goy, nous sommes des, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas juifs de naissance, nous sommes des goyim, nous appartenons aux nations. Païenne, entre guillemets. Donc Jésus est juif, Marie étant juive, mais Jésus est de la tribu de Judas, la tribu de David. Or, pour être prêtre dans la tradition juive, il faut être de la tribu de Lévi, une autre des 12 tribus d'Israël. En Israël, on est prêtre de père en fils. C'est vachement bien pour la pastorale des vocations. Pas de problème. Nous, on a un petit problème, c'est qu'on n'est pas prêtre de père en fils. Encore moins dans l'Église latine, parce que les prêtres sont appelés parmi des hommes qui ont fait le choix du célibat. Donc, on a un vrai souci pour la pastorale des vocations, vous voyez. Ce qui nous rend dépendants de Dieu, d'ailleurs, c'est très bien. Voilà, on ne peut pas s'organiser simplement avec nos forces humaines. On a besoin du don de Dieu. On a besoin que Dieu appelle des hommes pour qu'ils se consacrent au sacerdoce qu'il leur partage. Voilà, ça nous rend dépendants de Dieu, et c'est très bien. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une église qui s'autosuffit, vous voyez, qui s'organise sans Dieu. Ça peut nous arriver parfois dans nos paroisses. On n'a plus de prêtre, ma foi, on s'organise. On va faire comme si, comme si on pouvait s'en passer. Et peu à peu, on en arrive à une église auto-centrée, auto-organisée, qui n'a même plus besoin de demander au Seigneur les sacrements et les prêtres qui peuvent les offrir. Vous voyez. Donc rendons grâce à Dieu pour ne pas pouvoir avoir des prêtres de père en fils. Hein. C'est un cadeau. Mais ça nous oblige à la foi, par contre. Ça nous oblige à la foi et à la prière dans la foi. Donc Jésus, selon la loi juive, n'est pas prêtre. Mais du coup, les premiers chrétiens qui sont juifs, hein, tous les 12, Marie, les saintes femmes, la première église de Jérusalem, elle est judéo-chrétienne. Hein, ils vont devenir chrétiens à partir de leur foi juive. Ils vont reconnaître en Jésus le Messie d'Israël, le Christ, hein, celui qui a reçu l'onction pour sauver son peuple. Mais vous savez, la place que tenait la liturgie et le temple pour la foi juive, hein, c'était essentiel. Et du coup, si Jésus n'est pas prêtre, comment comprendre tous ces sacrifices, toute cette liturgie du temple jusqu'à Jésus? Comment comprendre, comment vivre la prière? Et comment comprendre que Jésus, finalement, il n'est pas prêtre selon la chair, mais en même temps, c'est bien lui qui fait le trait d'union entre son Père et nous, entre le ciel et la terre. Donc il est bien prêtre quand même quelque part, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il est médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est ce que va nous faire méditer la lettre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux, c'est un texte superbe qui va aider les chrétiens d'origine juive à comprendre que Jésus est le grand prêtre par excellence et qu'il y a une nouvelle liturgie. On n'a plus besoin du temple de pierre. Hein, détruisez ce temple. En 3 jours, je le relèverai. Après sa résurrection, ils comprirent qu'il parlait du temple de son corps. Voilà. Jésus est prêtre non pas par la naissance, mais il est prêtre par son existence. Parce qu'il va unir en lui Dieu et l'homme, puisqu'il est Dieu fait homme. Voilà. Et donc toute sa vie, et notamment sa mort qui est le sommet de sa vie, eh bien, vont exprimer cette alliance de Dieu et de l'homme dans sa personnalité. Et donc Jésus est prêtre par son être, voyez, et non pas par sa naissance. Et il va introduire son Église dans cette dimension sacerdotale. Nous sommes un peuple de prêtres, non pas par la naissance. On est de différentes nations, de différentes cultures, de différentes couleurs. L'Église est catholique, elle est selon le tout de l'humanité, elle est universelle, elle rassemble toutes les nations, toutes les cultures. Parce que nous sommes un peuple de prêtres, non pas par la naissance, par la chair et le sang, mais par l'eau et par l'esprit. Par la grâce du baptême. Voilà. Et Jésus va partager son sacerdoce à son Église. C'est-à-dire que c'est son corps ecclésial, nous sommes le corps du Christ, c'est son corps qui va être chargé de faire ce lien de communion, de servir ce lien de communion entre le monde des hommes et son Père, entre la terre et le ciel. Voilà. L'Église, peuple de prêtres, l'Église sacerdotale, elle participe au sacerdoce de Jésus, qui sauve le monde du péché en établissant une communion que rien ne peut défaire entre Dieu et les hommes, entre son Père et ses frères. Et parmi ce peuple sacerdotal, le Seigneur en appelle quelques-uns qui reçoivent un sacrement par l'imposition des mains pour signifier au cœur de l'Église la présence de Jésus prêtre et pour poser ses gestes que sont les sacrements. Voyez ? Mais ce n'est pas par la naissance, c'est par grâce, c'est par le baptême, c'est par le sacrement de l'ordre, hein, c'est par l'eau et par l'esprit. Jésus, grand prêtre, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Donc il n'est pas prêtre selon le sacerdoce de Lévi, mais selon le sacerdoce de Melchisédek. Hein, voilà la grande découverte de la lettre aux Hébreux. Melchisédek, ce roi mystérieux dont parle le livre de la Genèse, à qui Abraham va remettre une partie de ses biens, et Melchisédek, dont on ne connaît ni le père ni la mère, mais qui est prêtre du Dieu très haut. Voilà. Bien, Jésus, il est prêtre, non pas par sa paternité ou par sa filiation, pardon, humaine, mais il est prêtre de par son Père céleste. J'espère que je ne vous ai pas perdu, parce que c'est un peu précis quand même cette affaire-là, mais ça me paraît important, vous voyez, de contempler aujourd'hui Jésus comme grand prêtre et de comprendre que son Église, nous participons à son sacerdoce, à ce service de communion entre Dieu et les hommes, et de que vous situiez avec justesse la place des prêtres ordonnés dans l'Église. Voilà. Nous sommes prêtres par l'ordination pour que vous viviez pleinement votre sacerdoce baptismal. Vous voyez ? Hein, être ordonné prêtre dans l'Église catholique, ce n'est pas une récompense, hein, ce n'est pas un grade. C'est un service pour que tous les baptisés vivent pleinement leur baptême sous cet angle sacerdotal. C'est-à-dire que dans votre travail, dans vos études, dans vos engagements, dans votre service, vous serviez consciemment et avec cœur et dans la charité ce lien de communion entre Dieu et les hommes, entre vos frères et notre Père du ciel. Hein, nous sommes chargés, comme Église du Christ, de faire passer ce monde en Dieu, de passer de ce monde au Père, et de faire descendre sur ce monde la bénédiction de Dieu. Alors les prêtres le font par leur ministère, par les sacrements, par la prédication, par la conduite pastorale de la paroisse, de la communauté qui leur est confiée. Mais tout baptisé doit servir ce passage du monde au Père. Comme laïc, vous avez cette vocation propre au cœur du monde, dans vos activités quotidiennes, de faire grandir le règne de Dieu. En vivant dans la charité, en parlant de lui, et dans votre prière, de faire monter ce monde, ses souffrances, ses cris, vers le Père. C'est le sens de la prière des fidèles à la messe. C'est vraiment l'exercice du sacerdoce baptismal. Le peuple de Dieu, le peuple des fidèles du Christ, fait monter vers le Père, par Jésus, la prière des hommes, les attentes des hommes. Donc c'est un peu dramatique quand on fait de la prière universelle en boîte, vous voyez, en conserve. C'est-à-dire, je prends un truc et tout écrit. Non, si vous voulez exercer votre sacerdoce baptismal, vivre votre baptême, vous devez présenter la prière des hommes que vous rencontrez dans la semaine. Vous devez présenter vos collègues de travail, vos membres, les membres de votre famille, ceux qui ne viennent pas, qui ne viennent plus à la messe, ceux qui sont à l'hôpital, ceux qui ont telle ou telle angoisse, tel ou tel souci. Comment vous vivez la messe le dimanche ? Est-ce que vous la vivez en recevant purement et simplement, ou est-ce que vous la vivez aussi en présentant ? Il y a le double mouvement dans l'exercice du sacerdoce baptismal. Hein ? Il y a le mouvement descendant, voilà, je reçois le don de Dieu pour le transmettre aux hommes. Et il y a le mouvement ascendant, je présente à Dieu les besoins, les attentes, les prières des hommes. Vous voyez ? Donc soyez des baptisés à 100%, soyez pas des baptisés à temps partiel. Hein ? Voilà, vous ne reposez pas uniquement sur les prêtres dont c'est le job. Hein ? C'est un peu trop facile ça. Nous, nous sommes prêtres par le sacrement de l'ordre pour que vous soyez vraiment prêtres par toute votre existence. Vous voyez que toute votre vie, pendant toute la semaine, dans tous les secteurs professionnels, familiaux, associatifs, culturels, dans les loisirs, que toute votre existence fasse passer Dieu au monde et que vous fassiez passer ce monde en Dieu. Nous voulons passer de ce monde au Père. Ben, ce n'est pas seulement après notre mort, c'est tous les jours de notre vie que ça se passe, ça. Et mes sœurs, vous vivez votre sacerdoce baptismal par votre consécration. Voilà, le choix de vie que vous faites de consacrer tout votre être, toute votre vie au Christ, dans une vie de retrait, de prière et d'offrande, c'est bien pour faire passer ce monde au Père. Et par votre chant, par votre louange, faire exister, rendre présent l'amour de Dieu au cœur de la vie des hommes. Hein, votre monastère, votre communauté est un signe fort au cœur de Paray-le-Monial. Comme toute communauté religieuse est un signe au milieu de la vie des hommes que le royaume de Dieu est présent, est déjà présent. Voyez. Donc regardons Jésus grand prêtre, hein, élevé de terre sur la croix, regardons celui qui est transpercé et comprenons que le trait d'union qu'il établit entre le ciel et la terre, nous en sommes aujourd'hui porteurs par notre baptême. Nous avons à servir ce trait d'union que plus rien ne peut défaire entre le Père du ciel et nos frères de la terre. Voilà, puisqu'en Jésus, ce trait d'union est définitivement établi. Même le mal et la mort n'ont pas réussi à le remettre en cause. Voilà, donc du Christ grand prêtre découle le sacerdoce baptismal et le sacerdoce apostolique ministériel. Pour résumer ça, oui, il y a une formule qui m'a éclairé. Quand j'ai fait ma retraite d'ordination, c'était dans une trappe, et un moine m'a dit « Souviens-toi que tu vas être ordonné prêtre, mais pour bien te situer, souviens-toi qu'il n'y a qu'un seul prêtre, que tous sont prêtres et que quelques-uns sont prêtres. » Voilà, un seul prêtre, c'est Jésus, l'unique grand prêtre, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est le seul qui nous sauve. Tous prêtres par le baptême. Voilà, nous participons au sacerdoce de Jésus parce que nous sommes membres de son peuple sacerdotal. Voilà, chargé de servir hein, cette communion, cette alliance nouvelle, éternelle, entre Dieu et les hommes. Et quelques-uns prêtres, par le sacrement de l'ordre, c'est le sacerdoce ministériel, pour servir la vitalité du sacerdoce baptismal, hein, par la prédication, les sacrements et la conduite pastorale de l'Église. Voilà, tous prêtres, quelques-uns prêtres, parce qu'il y a un seul grand prêtre, Jésus. Toujours avec le fil de l'Écriture, le passage où Jésus dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère. » Le disciple qu'il aimait, vous avez remarqué, vous le savez bien sûr, qu'il n'est pas nommé. Alors la tradition l'identifie à Saint Jean, ce qui vaut à Saint Jean d'être sur la fresque, mais Saint Jean lui-même ne se nomme pas, et ce n'est pas anodin, ce n'est pas uniquement par humilité. C'est par pédagogie, parce que chacun d'entre nous est appelé à être le disciple que Jésus aime. Et donc notre place comme disciple bien-aimé est au pied de la croix. Voyez ? Et ce n'est pas seulement à Saint Jean hein, que Jésus dit « Voici ta mère ». Ce n'est pas seulement à propos de Saint Jean que Jésus dit « Voici ton fils ». C'est à propos de chacun d'entre nous. Et c'est à chacun d'entre nous qu'il confie sa mère. Et donc, le disciple authentique, c'est celui qui prend Marie chez lui, dans son cœur, dans sa vie. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une lubie catholique, hein, la place de Marie. Là, je suis prêt à croiser le fer avec tous les exégètes ou tous nos frères protestants qui ont plus de mal, parce que peut-être que parfois, dans certaines expressions, on a tendance à exagérer, ça, je veux bien l'entendre. Mais en tout cas, dans l'Écriture, la place de Marie dans la vie d'un disciple, ça n'est pas une option. Voici ta mère. À partir de cette heure-là, de l'heure de Jésus, le disciple l'a pris chez lui. Donc je ne peux pas être le disciple bien-aimé sans prendre Marie chez moi. Alors, je ne sais pas où vous en êtes. On n'a pas tous la même relation à Marie. Pour certains, c'est évident que la vie chrétienne, elle comporte la présence maternelle, éducative, de la Vierge Marie. Pour d'autres, c'est plus difficile. Il ne s'agit pas de juger, ça dépend de nos itinéraires, de nos éducations, voilà, de la façon dont on est bâti. En tout cas, quelle que soit notre histoire, vous voyez qu'il y a là un point essentiel pour être disciple bien-aimé de Jésus. C'est de recevoir Marie comme mère. Marie n'est pas Dieu, on est d'accord, hein ? Elle est pleinement femme, uniquement femme, ce qui est déjà beaucoup. Elle n'est pas Dieu, on est bien d'accord. On ne fait pas de mariolatrie hein, en mettant Marie à la place de Dieu. Non, elle est créature, mais elle a une place singulière dans le plan de salut de Dieu. Elle a donné naissance à Jésus, elle l'a aidé à grandir humainement, et elle est présente à la croix. Et à la croix, Jésus nous dit, prends-la chez toi. Si tu veux être mon disciple, si tu veux me suivre jusqu'au bout de l'amour, tu vas avoir besoin de Marie. Écoute-la, regarde-la. Donc demandons, si nous n'avons pas encore une aisance filiale vis-à-vis de Marie, si on a du mal à la prendre comme notre mère, si ça coince par un bout ou par un autre, demandons, comme grâce au Seigneur, en ce vendredi saint, de recevoir Marie comme mère. Voilà. Seigneur, aide-moi à accueillir chez moi Marie comme étant ma mère. Demandons-le. Demandons-le. Vous ne le regretterez pas. Vous savez que Jean-Paul II, il a eu ce problème, hein. Alors, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul, ben oui, Saint Jean-Paul II, totus tous. Hein. Quand il était plus jeune, il craignait que donner trop de place à Marie, ce soit évincer un peu Jésus. Et ça le dérangeait. Et puis il a rencontré quelqu'un qui lui a dit, mais non, Jésus lui-même demande de prendre sa mère chez soi. Et il s'est mis à l'école de Saint Louis-Marie, Grignan de Montfort, qui explique ça très bien. Si vous lisez Saint Louis-Marie, c'est hyper christocentré. Retenez le mot, ça fait bien dans une conversation. Hein. Christocentré, voyez, centré sur le Christ. Hein. Donc on n'est pas du tout déviant en mettant Marie là où il ne faut pas la mettre. Hein. Saint Louis-Marie, il est bien chrétien, disciple du Christ, unique sauveur, unique médiateur entre Dieu et les hommes. Mais il a bien compris aussi que Marie, étaient celles qui pouvaient nous aider à suivre le Christ, à Jésus par Marie. Voilà. C'est ça que comprend saint Jean-Paul II en lisant le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge de saint Louis-Marie Grignon de Montfort. À Jésus par Marie. Dernier élément que je voudrais souligner, avant-dernier, pardon, dans ce passage de l'Évangile selon saint Jean, toujours au chapitre 19, une fois que Jésus a remis... Alors oui, non, je passe, tant pis, ça ce sera pour une autre fois. Une fois que Jésus a remis l'esprit, il y a cet épisode des soldats qui vont briser les jambes des condamnés qui entourent Jésus, et quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, « Aucun de ses os ne sera brisé. » Un autre passage de l'Écriture dit encore, « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Le sang et l'eau qui s'écoulent du côté ouvert de Jésus. Voilà. Le côté, c'est le lieu du cœur, et le sang et l'eau proviennent du muscle cardiaque. Les médecins expliquent ça mieux que moi, mais au niveau de l'anatomie, c'est tout à fait cohérent ce que décrit saint Jean. Saint Jean est très cohérent, à la fois dans ce qu'il décrit du corps de Jésus, de ce qu'il décrit des lieux géographiques, topographiques, c'est vraiment branché sur le réel. Et du coup, le sang et l'eau qui coulent du côté de Jésus, vous le savez, on les a bien sûr compris dans la tradition chrétienne comme évoquant la source des sacrements, l'eau du baptême, le sang de l'Eucharistie. Voilà, Jésus nous donne sa vie et sa vie va nous être transmise par les sacrements. La grâce de Dieu, la vie de Dieu nous est donnée par les sacrements. Et alors les pères de l'Église, quand ils ont contemplé, médité ce passage de saint Jean, en voyant que c'était du côté de Jésus que jaillissaient les sacrements de l'Église, qui font l'Église, qui constituent l'Église, eh bien ils ont fait un rapprochement lumineux avec la Genèse, en disant, mais finalement Jésus, comme dit saint Paul d'ailleurs, dans la lettre aux Romains, c'est vraiment le nouvel Adam, à partir du côté duquel Dieu va façonner la nouvelle Ève, l'Église, mère des vivants. Vous voyez, c'est très beau de faire ce rapprochement. Dans le récit de la Genèse, au chapitre 2, le Créateur plonge ardent dans un profond sommeil. Et pendant son sommeil, il va façonner à partir de son côté Ève, la mère des vivants, la femme. Et c'est impressionnant de voir que Jésus va appeler Marie, non pas maman, mais qui va lui dire femme, comme dans la Genèse. Et on peut rapprocher sans cesse en fait Marie et l'Église. Ce qu'on dit de Marie, on peut le dire de l'Église. Ce qu'on dit de l'Église, on peut le dire de Marie. Ça, il y a longtemps que les théologiens ont remarqué ça, voyez. Et donc, à partir du côté de Jésus qui est mort, donc qui est dans un sommeil profond, eh bien Dieu va façonner à partir de son côté l'Église, la mère des vivants, qui va transmettre la vie de Dieu par les sacrements, par l'eau du baptême, par le sang de l'Eucharistie. Voilà ce qu'on peut contempler en contemplant Jésus en croix. C'est l'Église aussi qui advient aux côtés de Jésus pour prolonger la mission de Jésus. La mission de l'Église, c'est la mission de Jésus. Le salut qu'apporte Jésus, l'Église a pour mission de le transmettre, de l'annoncer, de le proposer, de le servir. Enfin, Jésus qui remet l'esprit, je voudrais juste souligner ce jeu de mots. Saint Jean aime beaucoup jouer sur les mots et leur double sens. Et vous savez peut-être qu'en grec, quand Jean écrit Jésus remet l'esprit, saint Jean dit qu'il remet le dernier souffle. C'est le même mot en grec pour dire esprit et pour dire souffle. Donc remettre l'esprit, remettre le souffle, en fait c'est exsuffler. Vous voyez, c'est Jésus donne tout ce qu'il a. Il va jusqu'au bout de l'amour dans ce dernier souffle. Mais comme c'est le même mot, on peut écrire esprit avec un petit ou avec un grand E. Pour saint Jean, Jésus donne l'Esprit Saint au moment où il meurt. On peut voir la racine, la source du don de l'Esprit Saint dans la mort de Jésus. Jésus qui remet son dernier souffle humain, va transmettre en même temps l'Esprit de Dieu, l'Esprit divin. Alors, on en reparlera dimanche matin, hein, dans le récit d'apparition de Jésus ressuscité chez Saint Jean, au chapitre 20, Jésus souffle sur ses disciples au soir de Pâques. Et donc, Saint Jean encadre, hein, la passion de ces deux mentions du souffle. Jésus donne son dernier souffle sur la croix, et à la première manifestation de sa résurrection au Cénacle, au soir de Pâques, il va souffler sur ses disciples. Vous voyez, Saint Jean, c'est vraiment l'évangile de l'Esprit-Saint. Saint Jean nous apprend d'où vient l'Esprit-Saint. Et c'est quoi l'Esprit-Saint? C'est vraiment ce souffle qui anime Jésus. C'est bien sûr le souffle de Dieu, la vie même de Dieu, l'amour de Dieu, mais qui va habiter Jésus dans sa vie humaine, et Jésus dans sa mort d'homme, dans son dernier souffle d'homme, nous transmet en même temps finalement le souffle de Dieu. Et explicitement, il le fera une fois ressuscité au soir de Pâques en soufflant sur ses disciples. Donc, le mystère de la croix, vous voyez que c'est un mystère profondément trinitaire. Ce n'est pas Jésus seul, hein, c'est toute la Trinité sainte qui est impliquée dans le mystère de la croix. Le Père est là. Qui me voit, voit le Père. Saint Jean 14, verset 9. Je ne sais pas quelle image de Dieu nous avons en nous, mais il y a toujours dans notre cœur et dans nos représentations mentales un païen et un chrétien qui s'affrontent. Et nous sommes toujours un peu païens. Et c'est pour ça que la liturgie de l'Église, l'Église est mère, on vient de le dire, et donc pédagogiquement, chaque année, elle nous fait repasser par ce triduum pascal pour qu'on devienne de plus en plus chrétien et qu'on soit de moins en moins païen. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on a toujours en nous une représentation païenne de Dieu. Un Dieu qui serait là-haut sur les nuages, à tirer les ficelles de l'ordre du monde, et qui, selon son bon vouloir, exaucerait ou pas telle ou telle de nos prières. Est-ce que c'est ça le Dieu que Jésus nous révèle? Non. Jésus, il nous dit, « Qui me voit, voit le Père. Hein, » C'est la question de Philippe. « Mais Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus qui est déçu, qui dit, « Mais enfin, Philippe, il y a si longtemps que je suis parmi vous, et tu ne me connais pas. » Qui me voit, voit le Père. Pour connaître qui est le Père, pour avoir la véritable image de Dieu, il faut regarder Jésus. Et alors, ma représentation de Dieu est un peu évangélisée de plus en plus. Elle devient chrétienne. Voyez, c'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu proche. Le royaume de Dieu s'est approché. Convertissez-vous, changez de regard, changez d'image de Dieu. Et croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle, que Dieu n'est pas loin mais qu'il est proche, qu'il n'est pas ce Dieu qui tire sur des fils comme si nous étions des marionnettes, non. Il est le Père qui vous aime, le Père de la parabole. Vous voulez prendre l'héritage, vous voulez faire comme s'il n'existait pas, comme s'il n'était pas là et partir loin de lui, il te laisse partir, mais ça le fait souffrir. Et il n'a de cesse d'attendre que tu reviennes. Et quand tu reviens, il court devant toi, dans la miséricorde. Il ne te laisse même pas terminer ton acte de contrition que déjà il te relève et il te remet l'habit de fête pour te pardonner, pour te réintroduire dans l'Alliance. Voilà le visage de Dieu que Jésus nous révèle par ses paraboles, par sa vie, en guérissant les malades, en prenant les lépreux, en guérissant les paralytiques, les sourds, les aveugles, en relevant les morts. Jésus nous montre qui est le Père. C'est le Dieu de la vie. Bien sûr qu'il sait que notre monde tel que nous le vivons actuellement est blessé par le péché, qu'il y a cette réalité du mal et de la mort, qu'il y a des catastrophes, la tour de Siloé qui s'effondre et qui fait 18 morts à Jérusalem. Jésus le sait, il lit les journaux, Dieu lit les journaux, Dieu connaît l'actualité. Il sait qu'on a des deuils dans nos familles, qu'on ne s'explique pas, dont on souffre. Jésus le sait, et qui voit Jésus voit le Père. Qui voit Jésus pleurer devant la tombe de Lazare, son ami, voit Dieu le Père pleurer lorsque nous enterrons un proche. Alors ça nous demande une conversion radicale, et elle n'est jamais terminée. Il y a toujours ce païen en nous qui résiste et qui en veut à Dieu Parce que quand même, il est tout-puissant. Décroche-toi toi-même. Si tu es Dieu, si tu es tout-puissant, fais disparaître la mort, si tu es Dieu. Et voilà que ce Dieu va prendre la mort sur ses épaules et va la prendre à tel point qu'il va même y plonger et qu'on va le mettre dans un tombeau. Vous voyez, l'accusation que nous vivons aujourd'hui, Jésus qui est condamné à mort, c'est l'erreur judiciaire numéro un. C'est l'innocent, par excellence, sans péché, qui n'a fait qu'aimer, qui est condamné. C'est paradoxal, hein, mais c'est ça. Et ça arrive souvent, finalement, dans nos sociétés humaines. Celui qui est juste, parce qu'il est juste, il nous dérange, parce qu'il révèle nos injustices, et du coup, il se retrouve en bouc émissaire. Hein, vous pouvez lire René Girard, qui a beaucoup écrit là-dessus de façon très intéressante. Et bien, Jésus, c'est le bouc émissaire par excellence. Il est l'innocent, mais il va être condamné. Et finalement, Dieu, le Père, est le bouc émissaire par excellence. C'est lui qui prend tout. C'est nous qui sommes pécheurs, mais c'est lui qui est responsable des conséquences de notre péché, vous voyez. On l'accuse de son dont on est en partie, nous, responsables. Alors, il y a bien sûr une part qui nous échappe, hein. Le fait que le monde soit blessé par le mal, qui est des catastrophes naturelles, que la maladie existe, on n'en est pas directement, personnellement responsable, on est d'accord. Mais on a quand même, dans la prolifération du mal dans le monde, une part de responsabilité, c'est notre péché. Et là, je voudrais rejoindre le fil de l'enseignement de l'Église dans les quelques minutes qui me restent. Pour vous dire que pour la foi de l'Église, c'est bien le Christ qui nous sauve, et non pas la croix elle-même. Voilà, je voudrais dire cela dans une formule ramassée, c'est le crucifié qui nous sauve, et non pas la croix. Alors ce soir, on va adorer la croix, on va l'embrasser, on va la vénérer, parce que par extension, la croix, on lui attribue les mérites qui viennent en fait du crucifié, qui viennent de Jésus. Et on confesse la croix comme l'instrument de notre salut. Mais là, il faut qu'on tienne une ligne de crête. Et si on verse d'un côté ou si on verse de l'autre, on bascule dans l'hérésie. Personne n'a envie d'être hérétique ici, c'est bon ? Hein, vous voulez tous avoir une foi droite, j'imagine. Eh bien, voyez, il faut faire attention parce que d'un côté, on peut basculer dans le dolorisme. C'est-à-dire penser que c'est la souffrance qui sauve. Finalement, plus Jésus a souffert, plus il nous a sauvés. Plus je souffre, plus je contribue au salut du monde et à mon propre salut. C'est pas juste. Et ça amène à des déviances sérieuses. C'est le dolorisme, c'est condamné par l'Église. Hein. Parce que ça mène dans un mauvais chemin. Quand l'Église condamne, c'est pas pour prononcer une sentence négative, c'est pour protéger ses enfants, hein, pour dire attention, là c'est pas le bon chemin. « Te mets pas les doigts dans la prise, ça fait mal. » Voilà, c'est ça que dit l'Église, hein, quand elle désigne une hérésie. « Te mets pas les doigts dans la prise. » Donc attention au dolorisme. Ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour. C'est l'amour à travers la souffrance. On pourrait presque dire « malgré la souffrance » et qui va convertir la souffrance par la puissance de l'amour. Souvenez-vous, hein, la fission nucléaire de ce matin, le premier moment où le noyau de l'atome est fissuré, c'est parce que Jésus transforme la violence qu'il subit en offrande dans et par l'amour. Voilà, c'est l'amour qui sauve, c'est pas la souffrance. Donc évitons le dolorisme. Restons sur la ligne de crête et de l'autre côté, on peut verser dans l'hédonisme, c'est-à-dire, bon, finalement, oui, c'est pas la souffrance qui sauve, donc autant être bienheureux et en bonne santé, on est d'accord, hein, recherchant le bien-être à tout prix, puisque ce n'est pas la souffrance qui sauve. Mais c'est oublier que Jésus va nous sauver à travers la souffrance, et que la souffrance devient donc un lieu où on peut contribuer au salut du monde par l'amour. Et là, on est vraiment sur une ligne de crête. Vous voyez, l'hédonisme, c'est la recherche du plaisir, du bien-être à tout prix, qui va jusqu'à nier toute valeur à la souffrance. Or, la souffrance peut avoir, par l'amour, une certaine valeur. Et là, je vous renvoie à un texte qu'on connaît trop peu, je pense, une lettre apostolique du pape Jean-Paul II, qui s'appelle Salvifici Doloris. Salvifici Doloris, c'est de 1984. Je vous lis le numéro 9. Au cœur de toute souffrance éprouvée par l'homme, et aussi à la base du monde entier des souffrances, apparaît inévitablement la question « Pourquoi ?». C'est une question sur la cause, la raison. C'est en même temps une question sur le but « Pourquoi ?». Et en définitive, sur le sens. Non seulement elle accompagne la souffrance humaine, cette question, mais elle semble aller jusqu'à en déterminer le contenu humain, ce pourquoi la souffrance est à proprement parler une souffrance humaine. Évidemment, la douleur, spécialement la douleur physique, est largement répandue dans le monde des animaux. Mais seul l'homme en souffrant sait qu'il souffre et se demande pour quelle raison. Et il souffre d'une manière humainement plus profonde encore s'il ne trouve pas de réponse satisfaisante. C'est là une question difficile, comme l'est cette autre question très proche qui porte sur le mal. Pourquoi le mal ? Pourquoi le mal dans le monde ? Quand nous posons le problème de cette façon, nous posons toujours aussi, du moins dans une certaine mesure, une question sur la souffrance. Ces questions, écrit toujours Jean-Paul II, sont l'une et l'autre difficiles quand l'homme les pose à l'homme, les hommes aux hommes, et aussi quand l'homme les pose à Dieu. L'homme, en effet, ne pose pas cette question au monde, bien que la souffrance lui vienne souvent de lui, mais il la pose à Dieu comme créateur et seigneur du monde. Et l'on sait bien que sur ce terrain, non seulement on arrive à de multiples frustrations et conflits dans les rapports de l'homme avec Dieu, mais il peut se faire aussi que l'on arrive à la négation même de Dieu. Voilà, je vous invite à continuer la lecture, elle est passionnante. Mais Jean-Paul II, vous voyez, reprend ce que disait déjà Thomas d'Aquin en son temps, c'est que l'argument le plus fort pour ne pas croire à l'existence de Dieu, c'est la présence du mal et donc de la souffrance. C'est un argument très fort. Et ça nous travaille intérieurement, y compris dans notre vie de croyant, de croyant. Le païen et le chrétien, je le disais tout à l'heure, existent en nous et bataillent en nous. Et face à la croix de Jésus en ce vendredi saint, on est face à cette question radicale. Pourquoi la souffrance ? Pourquoi le mal ? Il n'y a pas de réponse pleinement satisfaisante au plan rationnel. C'est Claudel, un poète, qui dit que Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance. Jésus est venu habiter la souffrance de sa présence. Quand je souffre, je ne suis plus seul. Jésus est là. On l'a suivi sur son chemin de croix. Donc Jésus est proche de moi quand je souffre. Voyez la croix que porte Jésus. Simon de Cyrène va l'aider à la porter. Et on se dit, quand j'offre quelque chose de difficile, j'aide Jésus dans sa passion, je contribue au salut du monde. C'est vrai. Mais nous oublions que la croix que porte Jésus, ce n'est pas la sienne, c'est la nôtre. C'est la nôtre. On va l'entendre dans la lecture tout à l'heure. Ce sont nos douleurs qu'il portait, nos souffrances dont il était chargé. Jésus n'avait normalement aucune douleur, aucune souffrance à porter. Il est sans péché, il est fils de Dieu. Mais il vient épouser notre humanité blessée, qui vit dans ce monde marqué par le mal et par la mort. Et donc Jésus prend sur lui notre croix. La croix de Jésus, c'est la nôtre. Donc c'est bien quand on en prend une part, parce que c'est quand même la nôtre, vous voyez. Il ne faut pas se déresponsabiliser trop vite. Donc frères et sœurs, regardons Jésus comme celui qui porte avec nous nos épreuves, nos souffrances, nos questions. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus pose cette question. Nos pourquoi, Jésus les habite. Dans mes pourquoi, Jésus est présent, à mes côtés. Et du coup, il y a un chemin. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Là, je n'ai pas la réponse qui va vous satisfaire intellectuellement maintenant sur cette question. Par contre, je vous indique le chemin que l'Écriture, que la foi de l'Église nous donne. C'est Jésus. Parlez-lui de vos pourquoi, de vos souffrances. Présentez-lui. C'est pourquoi. Et cherchez-le. Il est à vos côtés dans ces pourquoi. Il les habite, il les a portés lui-même. Il les porte avec vous. Et demandez-lui comment avancer, comment faire un pas de plus. Demandez-lui la lumière pour faire un pas de plus. Il vous la donnera. Je termine sur le fil de notre vie de disciple pour nous rappeler justement que cette croix que porte Jésus, c'est bien la nôtre. Et donc, nous sommes responsables en partie de ce qui advient à Jésus. Et je voudrais vous lire un passage du catéchisme de l'Église qui est un peu cinglant, qui n'est pas très agréable à entendre. Mais bon, on est vendredi, hein, et vendredi saint, donc je me permets de vous faire entendre des choses un peu amères, c'est le moment. C'est le paragraphe 598 du catéchisme de l'Église. L'Église, dans le magistère de sa foi et dans le témoignage de ses saints, n'a jamais oublié que les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'endura le divin Rédempteur. C'est une citation du catéchisme romain du Concile de Trente. Tenant compte du fait que nos péchés atteignent le Christ lui-même, l'Église n'hésite pas à imputer aux chrétiens la responsabilité la plus grave dans le supplice de Jésus, responsabilité dont ils ont trop souvent accablé uniquement les Juifs. Citation du catéchisme du Concile de Trente. Nous devons regarder comme coupables de cette horrible faute ceux qui continuent à retomber dans leurs péchés. Puisque ce sont nos crimes qui ont fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ le supplice de la croix, à coup sûr, ceux qui se plongent dans les désordres et dans le mal, ouvrez les guillemets, c'est une citation de la lettre aux Hébreux, crucifient de nouveau dans leur cœur, autant qu'il est en eux, le Fils de Dieu par leur péché et le couvrent de confusion. Et il faut reconnaître, poursuit le Concile de Trente, il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs. Car eux, au témoignage de l'apôtre, s'ils avaient connu le roi de gloire, ils ne l'auraient jamais crucifié. Nous, au contraire, nous faisons profession de le connaître. Et lorsque nous le renions par nos actes, nous portons en quelque sorte sur lui nos mains meurtrières. Ta 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 ta. J'espère qu'on a tous froid dans le dos, vous voyez. Et alors, j'en rajoute une couche avec saint François d'Assise, que cite le catéchisme dans le même numéro. Les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié, et le crucifie encore en te délectant dans les vices et les péchés. Saint François d'Assise. Fermez le banc. Bon, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas qu'on aille tous se pendre après, hein. On a bien compris qu'il y a deux chemins possibles pour le disciple. C'est le remords, je m'enferme dans mon regret. C'est le chemin de Judas, c'est pas le bon. Et il y a le chemin du repentir, de la conversion. Je regarde Jésus et je me laisse regarder par lui. C'est le chemin de Simon-Pierre, ça c'est le bon. Voilà. Donc prenons le chemin de Simon-Pierre, mais avec la conscience ravivée que ce qui se joue dans le chemin de croix, ce qui se joue dans la passion et la mort de Jésus, nous y avons notre part de responsabilité. C'est pour nous et par nous qu'il est crucifié. Demandons à l'Esprit-Saint d'accueillir le vrai visage de Dieu, le vrai visage du Père en contemplant Jésus dans sa passion, et demandons-lui d'être des disciples qui soient ses amis et non pas ses ennemis. Amen.